Et mort, ça veut dire dit. Ça veut dire qu'il faut dire. Et mort, à qui faut-il dire? Eh bien, il faut le dire au prêtre. Et mort et la Kohanim parle, dit quelque chose au prêtre. Et alors, on s'attendrait à ce que le texte de la Torah continue en disant ce qu'il faut leur dire. Et alors, la Torah nous dit tout simplement, « Ve'amarta elem » et alors tu leur diras. Mais on l'a déjà dit qu'il fallait leur dire. Donc, il faut comprendre qu'en fait, il y a ici deux phrases. « Emor et la Kohanim, bene Aharon, dit aux Kohanim qu'ils sont les fils d'Aaron. » Ça veut dire que les Kohanim, les prêtres, sont des individus qui sont une sorte d'aristocratie spirituelle, mais que cette aristocratie doit être méritée. Il faut ressembler au fondateur de la famille des Kohanim, à Aharon. « Emor et la Kohanim, bene Aharon. » Il faut que tu dises aux Kohanim qu'ils sont les fils d'Aaron. Et c'est ce qu'on appelle en français « noblesse oblige ». Et alors viennent toute une série de règles concernant les Kohanim. À peu près la moitié de notre section hebdomadaire, la moitié de la paracha de Emor, ce sont une liste de règles concernant le comportement et l'intégrité même corporelle des Kohanim. Et on se demande à quoi ça sert exactement les Kohanim. Traditionnellement, dans certaines civilisations, les prêtres servent à assister le mourant. Vous savez que certains appellent le prêtre au moment de mourir pour se confesser. Ce qui voudrait donc dire que la prêtrise serait identifiée à la mort, plus qu'à la vie. Or, ce que dit la Torah, c'est exactement le contraire. Il est interdit au Kohen d'être en contact avec un mort, même interdit de s'introduire dans un lieu où est déposé un mort. C'est-à-dire que le Kohen est celui justement qui vient préserver la vie dans son intégrité. Et si on continue, on voit que c'est également dans sa vie personnelle. Il n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée. Il ne peut pas donc que dans sa vie conjugale, il y ait un contact avec l'échec. Or, le divorce est un échec de la réussite de la cellule familiale. Donc il ne peut pas être impur, il ne peut pas également être marié à une femme divorcée, et il doit également préserver sa pureté de manière générale, son intégrité corporelle. S'il y a par exemple, il se fait une atteinte à son corps, il sera impropre au service du temple. Contrairement à ce qu'on a pu trouver par exemple dans certaines mystiques orientales, l'idée que porter atteinte à son corps serait préférable, serait un acte de sainteté qui permet d'entrer avec, en contact avec le divin. Or, ce que dit la Torah, ne serait-ce que s'il y a quelque chose d'abîmé dans l'œil, dans la lèvre, une verrue quelque part dans le corps du Kohen, eh bien, il ne peut pas être qualifié pour sacrifier dans le temple. Alors, ça veut dire que c'est l'intégrité de la vie dans sa toute puissance, dans toute son intensité qui est demandée au Kohen, et c'est comme ça qu'il peut entrer au service des autres. Celui qui vit en dehors des nécessités, celui qui vit en dehors des échecs de la réalité, lui peut aider les autres. Il y a même une indépendance économique du Kohen. En effet, le Kohen n'a pas besoin, à la limite, de travailler. Il est alimenté par les dîmes des enfants d'Israël. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'est ici une sorte d'exploitation du prêtre qui exploiterait celui qui ne l'est pas, c'est au contraire, c'est une manière d'assurer, disons, un regard serein sur la réalité qui va permettre au Kohen de redonner de l'optimisme à celui qui connaît les difficultés de la vie. Ça, c'est la sainteté, donc, d'un être humain, le Kohen. Et puis, brusquement, la Torah passe à tout à fait autre chose. Elle nous parle des fêtes. Toute la liste des fêtes se trouve également dans la deuxième partie de notre paracha. Mais c'est tout simplement parce que nous passons ici à un autre domaine de la sainteté aussi. De même qu'il y a une sanctification de l'être humain, il y a également une sanctification du temps. Et la sanctification du temps est appelée mo'adim, ce qui veut dire le temps de la rencontre. En effet, le mot employé en hébreu moderne pour dire le temps zeman n'est pas d'origine hébraïque, il est d'origine araméenne. Dans la Torah, le mot zeman n'existe pas. Ce qui est employé, c'est le mot mo'ed. Mo'ed veut dire rencontre. En effet, c'est le moment de la rencontre entre l'histoire et le fondateur de l'histoire, c'est-à-dire le créateur du monde. Et c'est pour ça que ça commence par le Shabbat qui est le jour où le créateur s'est intéressé à son monde et il lui a donné son autonomie. Et puis après, vous avez les jours de Rosh Chodesh, les néoménies, c'est-à-dire le renouvellement permanent du cycle lunaire. Et puis après, vous avez les fêtes qui commémorent des événements historiques. Le premier jour de Pessah, le dernier jour de Pessah. Le jour de Shavuot, ou quand a été donnée la Torah, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, qui sont l'achèvement des événements de la sortie d'Égypte. Et il y a donc, on peut dire, dans le cycle de l'année, il y a une manière de revivre les événements qui ont été les événements fondateurs de notre identité nationale. Avec une petite différence, c'est que ce qui appartient au passé relève de la fête de Pessah, ce qui appartient au présent relève de la fête de Shavuot, parce qu'au présent nous étudions la Torah, et ce qui relève de l'avenir, c'est la fête de Sukkot, l'espérance de la rédemption universelle. Mais pour y arriver, il faut supprimer le mal, et ça se fait dans les jours redoutables de Rosh Hashanah et de Kippour. Donc, de même que vous avez chaque semaine un jour de Shabbat, nous avons pendant l'année 7 jours de Yom Tov, de jours sanctifiés en plus des jours de Shabbat, et c'est ça qui nous permet donc d'envisager que l'histoire est sainte. En effet, il y a une expression employée parfois dans le langage un peu vieillot maintenant, on parlait d'histoire sainte. Quand on parle d'histoire sainte, cela suppose qu'il y a une histoire sainte et une histoire profane. Et donc ça voudrait dire que le temps biblique serait le temps de l'histoire sainte, et puis que après les temps bibliques, eh bien c'est le temps du profane. Mais si on comprend bien ce que dit la Torah, c'est exactement le contraire. Ce que nous révèle la Torah, c'est que l'histoire est sainte. L'histoire jusqu'à nos jours et jusqu'à l'avenir, tout cela est le lieu de la rencontre entre le Créateur et sa créature, la réalisation d'un projet. Et ce projet continue à travers les fêtes qui viennent après le temps de la Torah, après le temps de la sortie d'Égypte. En effet, nous avons d'autres fêtes qui ont été instituées plus tard. La fête de Pourim, la fête de Hanouka, de nos jours, le jour de l'indépendance d'Israël et le jour de la libération de Jérusalem. Tout cela est dans la logique de la sanctification du temps qu'indique notre parasha. Or, on ne peut pas ne pas être surpris par le fait que juste après la liste longue des fêtes de la Torah rajoute quelques règles qui, a priori, n'ont rien à voir avec notre sujet. Elle nous parle de l'allumage des lumières dans le tabernacle, la menorah, et de la disposition des pains de proposition sur la table sacrée dans le tabernacle. Qu'est-ce que ça vient faire là-bas ? Or, la dernière des fêtes, c'est celle de Sukkot. Et c'est comme si la Torah voulait nous dire que dans le temple, il y a les fondements des fêtes à venir. En effet, la Torah dit « Vaidaber Moshe et Moadeh Hashem el Bnei Israël » et Moïse a transmis les temps de Dieu aux enfants d'Israël, ce qui peut être compris, Moïse a enseigné aux enfants d'Israël comment sanctifier d'autres temps dans l'histoire à venir. Et donc il nous dit « Il y a une fête » qui viendra un jour, après la fête de Sukkot, qui a son origine dans le candélabre du temple. Effectivement, c'est la fête de Hanouka. Et puis après viendra une autre fête, une fête qui sera faite d'un festin. Il s'agit de la fête de Pourim. Et donc, elle trouve son origine dans la table qui se trouvait dans le temple, sur lesquelles on disposait les 12 pains. Et ça se passe au 12e mois, au mois de Hadar. Et puis après vient un épisode encore plus surprenant qui a l'air véritablement de n'avoir rien à voir avec notre histoire, c'est l'histoire du blasphémateur. Le blasphémateur apparaît et il est condamné à la lapidation. Et la Torah ne nous dit pas beaucoup de détails sur sa vie, mais elle nous dit qu'il était... il ne savait pas s'il était vraiment égyptien ou hébreu. En effet, sa mère était de la tribu de Dan, elle était hébreu, mais son père était égyptien, et donc il avait une identité un peu trouble. Il ne savait pas s'il appartenait à l'histoire de l'Égypte ou à l'histoire d'Israël. Or, ça n'est pas sans nous rappeler également l'identité de Moïse lui-même, qui lui aussi a grandi comme égyptien, mais en tant qu'hébreu, et qui a dû choisir à un moment de sa vie s'il serait égyptien ou s'il serait hébreu. Et ce qui est surprenant, c'est que Moïse avait une difficulté à s'exprimer. Il était lourd de langage. Or, c'est exactement ce qui se passe avec le blasphémateur dans notre paracha. Il a également un problème dans sa parole. Cela vient peut-être nous dire qu'à partir de là, va naître une troisième fête, la fête de Yom HaAtzmaout, qui sera réalisée justement par l'action d'un individu qui ne saura pas très bien s'il est européen ou s'il est hébreu, et qui finalement, lorsqu'il voit qu'un Égyptien va frapper le capitaine Dreyfus, il décide de devenir le fondateur du sionisme. Et cela donc fait allusion également à la troisième fête, la fête de Yom HaAtzmaout que nous fêtons de nos jours. Donc on voit qu'il y a dans la paracha de Emor tout un ensemble de, disons, d'invitations à la sanctification de la vie humaine par les Kohanim, la sanctification du temps de la sortie d'Égypte par les fêtes instituées par la Torah, et l'allusion à la possibilité de continuer à sanctifier l'histoire à travers les commandements indiqués à la fin de notre paracha.